RCF.
C'est Grand Angle, bonjour. Oui, effectivement, nous sommes en direct du Trocadéro grâce aux moyens techniques d'RCF et de Philippe qui est derrière les manettes. Alors, Grand Angle, vous savez, on va aborder les questions de société. Il y a exactement 30 ans, des défenseurs des droits de l'homme se rassemblaient sur ce parvis où nous sommes aujourd'hui pour rendre hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Une plaque rappelle l'événement. Le texte du père Joseph Brzezinski, fondateur du mouvement ATD Quart-Monde, est gravé dans la pierre. Leur engagement est solennel. Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. C'est ce qui est inscrit là, sur la pierre du Trocadéro. Alors avec mes invités, nous reviendrons bien évidemment sur ce moment historique et puis aussi sur les 60 ans du mouvement ATD Quart-Monde. Mais pas seulement, parce que la lutte contre la misère, c'est un combat de tous les jours et c'est une urgence aussi pour aujourd'hui. Alors, autour de la table et autour des micros, il y a Xavier Godinot, bonjour.
Bonjour.
Je trouve que c'est important de rappeler que vous êtes diplômé de Sciences Po, docteur en économie, mais depuis 1974, vous avez croisé ATD et depuis vous n'en êtes pas sorti. Vous êtes toujours à ATD, vous êtes volontaire permanent, vous avez travaillé au sein du mouvement dans plusieurs pays du monde, vous avez piloté des recherches et vous êtes actuellement directeur du centre de recherche Joseph Brzezinski. Vous avez écrit aussi « Éradiquer la misère, démocratie, mondialisation et droits de l'homme », un livre publié aux presses universitaires de France. C'était en 2008. Il y a sans doute encore beaucoup de choses qui sont valables dans cet ouvrage. Manuela Le Canu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militante ATD Quart-Monde depuis plusieurs années. Vous avez représenté le mouvement dans différentes occasions et vous nous en parlerez aussi. Face aux difficultés que vous avez pu rencontrer, vous avez trouvé des personnes avec qui vous avez pu agir vous-même pour faire face à ces difficultés. Mireille Dassé, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez responsable de l'équipe des droits économiques et sociaux et culturels d'Amnesty France. Amnesty International France s'est engagée auprès d'ATD. Vous nous expliquerez pourquoi, notamment à l'occasion de cette journée de lutte contre la misère. Et puis nous attendons Éric Orsenna, écrivain, académicien, romancier. Il a écrit des essais sur la géopolitique, le papier, l'écologie, une œuvre assez développée avec un dernier livre consacré à La Fontaine, paru chez Stock. Mais ce n'est pas tout à fait le dernier. Le dernier livre, c'est le livre engagé avec ATD Quart-Monde Unis contre la misère, publié par La Martinière à l'occasion des 60 ans de la fondation d'ATD. Voilà, je vais présenter tout le monde. Refus de la misère 30 ans après. C'est le thème du jour de Grand Angle et c'est sur RCF, on en parle. On en parle pour commencer, Xavier Godinot. Le 17 octobre 1987, on l'entend, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, mais je pense qu'en 87, il y avait beaucoup plus de monde encore. Il faisait peut-être un peu plus froid parce qu'il fait très doux ce soir à Paris. Vous y étiez parmi les gens qui étaient rassemblés autour du père Brzezinski.
Voilà, donc on a dit qu'il y avait 100 000 personnes au Trocadéro ce 17 octobre 1987. C'était grandiose. À l'époque, j'étais responsable d'ATD Quart-Monde dans la région Rhône-Alpes. On était venu à plusieurs autobus, donc avec des alliés, des militants. Et voilà, il y avait toute une scénographie qu'on avait préparée. Je me souviens très bien, on arrivait avec des grosses têtes qu'on avait fait en papier collé, papier mâché. Et voilà, c'était grandiose et ça a laissé un grand souvenir à tous ceux qui ont participé.
On sait que c'est le père Joseph qui était vraiment à l'origine de cette inscription de la journée contre la misère. En même temps, c'était un homme aussi qui était d'une grande simplicité, que vous avez rencontré. Pouvait-il gérer cet affichage très important, très public, notamment son engagement au Conseil économique et social, et puis aussi cette volonté d'être dans un rapport d'homme à homme, de visage à visage?
Je crois que c'était son souci depuis les tout débuts du mouvement, lorsqu'il a commencé à Noisy-le-Grand, son souci d'être à la fois les pieds dans la misère et la tête dans les lieux où se décide l'avenir de l'humanité. Il a toujours eu ce souci et il raconte que lorsqu'il a fait ses premiers pas dans le camp bidonville de Noisy-le-Grand, où habitaient 250 familles sous des sortes d'abris pour les cochons, lorsqu'il a rencontré ce lieu, il a dit « Je reconnais là ce que j'ai vécu dans mon enfance, mes frères, mes sœurs et ces familles, je leur ferai monter les marches de l'ONU, du Vatican, de l'Élysée. » Donc vous voyez, dès ses premiers pas dans le bidonville de Noisy, au milieu d'une misère immense et alors qu'il est tout seul, il a cette ambition que les plus pauvres puissent prendre la parole et puissent être écoutés dans les lieux du monde où se décide leur avenir. Et je crois que c'est quelque chose qui est caractéristique d'ATD Quart-Monde, d'être enraciné dans le monde de la misère, dans les bidonvilles, les cités d'urgence, etc. Et en même temps, d'être présent dans les lieux où se décide l'avenir du monde, à l'ONU, à la Commission européenne, à l'OCDE, etc. et auprès des gouvernements.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Vous êtes vous-même allé à l'ONU, pas tout seul, avec beaucoup de représentants d'ATD. On en parlera peut-être tout à l'heure. Pour en revenir encore au 17 octobre 1987, cette rencontre, cette première journée du refus de la misère, c'est selon vous un événement historique, une prise de conscience ou un véritable engagement ?
C'est un peu tout cela à la fois. C'est un engagement, vous avez lu le texte, hein, c'est un engagement très fort. Hein, s'unir contre la misère est un devoir sacré. Nous sommes dans un pays laïque. Écrire sur le parvis des droits de l'homme que c'est quelque chose de sacré, c'est original. Il n'y a pas beaucoup de textes où il est écrit que c'est quelque chose de sacré. Donc c'est pour montrer l'importance de cet engagement et je dirais la pluralité des dimensions de cet engagement. C'est un engagement civique, c'est un engagement citoyen, c'est un engagement de proximité, c'est un engagement politique, c'est un engagement spirituel. Donc je crois que c'est tout cela que veut dire sacré. Évidemment, c'était l'inauguration de ce parvis et de ce texte, mais ce texte, cette dalle a été répliquée, je crois, dans maintenant 34 ou 35 lieux du monde. Il y a une réplique à l'ONU à New York, il y a une réplique à Bruxelles, en face du Parlement européen, il y a une réplique au Bureau international du travail, il y a une réplique à Manille, il y a une réplique dans énormément d'endroits pour signifier que c'est un message universel et qu'il doit s'incarner dans tous les pays en fonction de la culture de chacun. Mais que ce message qu'il faut s'unir autour des plus pauvres, il est universel.
Le message est universel et malheureusement, on sait que la misère, elle a aussi cette dimension universelle. Comment la définir ? On va écouter déjà ce que nous en disait le père Joseph Brzezinski.
La misère, c'est quand des personnes ou des familles ont de grandes, grandes difficultés et que elles sont obligées de faire appel à l'assistance parce qu'elles ne sont pas reconnues comme ayant des droits. C'est ça, je crois, la misère. Être sans droit. Si ces familles ou ces personnes sont sans droit, c'est parce que l'on les considère comme inférieures, incapables d'assumer leurs responsabilités. C'est qu'on les considère comme... elles le disent, les familles d'ailleurs, on les considérait comme rien.
Voilà, des paroles très fortes hein, du père Joseph Brzezinski pour nous dire ce qu'est la misère, être considéré comme rien. Alors, Manuela, Le Canu, la misère, c'est quelque chose que vous avez approché, il faut le dire très clairement. Pour autant, même dans la misère, il y a quelqu'un qui est venu vous voir. En tout cas, vous avez rencontré des personnes qui vous ont dit « vous n'êtes pas rien ».
Oui.
Dites-nous un petit peu comment ça s'est passé.
J'ai rencontré deux amis à moi qui connaissaient, qui étaient très, très proches du Père Joseph, qui ont connu le Père Joseph et qui ont connu les débuts du mouvement ATD Quart-Monde. Et ce jour-là, je me suis retrouvée dehors parce que j'avais plus de logement. J'étais hébergée chez un ami et du coup, j'avais pas trop envie de rentrer. Et ces personnes m'ont dit, écoute, tu vas pas rester toute seule. Demain, il y a une sortie familiale du mouvement ATD Quart-Monde. À Orgerus, tu vas venir avec nous et tu vas faire connaissance aussi avec des gens qui sont comme toi. Et si tout se passe bien, si tu en as vraiment envie, tu vas nous rejoindre en tant que tel et tu vas pouvoir militer pour le mouvement, nous aider à militer et à faire avancer les choses, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez nous aider à faire avancer les choses, parce que vous êtes acteur de cette vie, et comme vous êtes acteur de cette vie-là, vous pourriez mieux faire avancer les choses et faire comprendre aux gens qui vous entourent que vous n'êtes pas transparent non plus et que on existe et qu'on a besoin de soutien.
Alors, vous nous expliquez que déjà maintenant, comme militante ATD, vous venez en aide aussi aux autres, vous participez effectivement à cette action. Mais avant, je reprends juste, vous avez dit, si tu en as envie, viens. C'est-à-dire qu'on n'a pas décidé pour vous, ATD,
non.
On ne vous a pas dit ce que vous devez faire.
Non.
On vous a dit, si tu veux faire quelque chose, on est avec toi.
Oui, exactement. On est acteurs, donc ils nous disent, si tu as envie de t'en sortir, nous, on est là pour t'aider. Mmh. Et on ne laisse personne sur la route, quoi. On prend tout le monde dans le même wagon. Mmh. Voilà.
Et ça veut dire qu'après, on a envie, du coup, d'être aussi disponible aux autres.
Ah oui, beaucoup. Beaucoup. De toute façon, moi, j'ai toujours été comme ça, être disponible aux autres. Je pense toujours aux autres avant de penser avant moi, donc à moi avant, et du coup... Voilà, et j'ai trouvé quelque chose qui me convenait parfaitement en tant que militante. Je voulais combattre ça et je voulais trouver une association qui m'aide à le faire, et ATD Quart-Monde m'a très bien accueilli. Pour moi, je dis toujours qu'ATD est ma seconde famille.
Mmh. Voilà. Cette famille, c'était, il y avait ce week-end une grande fête avec les villages des initiatives,
oui,
un peu partout, et puis des initiatives elles-mêmes.
Oui.
Vous-même, vous êtes donc dans le mouvement depuis plusieurs années.
Depuis 2005, exactement.
Voilà, et vous avez participé à cette fête d'une façon tout à fait particulière en participant à la pièce de théâtre. Racontez-nous. Mmh.
Ah, bah c'est une pièce de théâtre qu'on a préparée pendant un an à peu près. Nous sommes tous de lieux et de milieux différents, et on a voulu raconter l'histoire du Père Joseph, l'histoire du mouvement ATD Quart-Monde, comment est né le mouvement, et grâce au Père Joseph. Comment lui étant enfant, il a vécu lui-même la misère, donc du coup, ben il a voulu créer ce mouvement pour pouvoir en venir en aide aux plus pauvres, comme on a entendu un extrait tout à l'heure du Père Joseph. Et du coup, nous, quand on nous a proposé, c'est un metteur en scène qui nous a proposé de faire cette pièce de théâtre. Et cette pièce de théâtre s'appelle Un peuple les yeux ouverts. On a joué tout le week-end, on a joué vendredi soir, samedi soir, on a joué aussi hier dimanche. Nous avons été filmés justement ce dernier jour et ce sera mis en DVD. Voilà. Il y aura donc des ventes de DVD là-dessus.
Pour ceux qui n'ont pas assisté au spectacle, rien n'est perdu.
Voilà, rien n'est perdu. Tout le monde sera au courant du mouvement parce qu'on raconte vraiment toute la vie du mouvement et toute la vie des volontaires, des alliés, de tous ces gens-là qui nous ont rejoints, nous les militants du mouvement ATD Quart-Monde.
Voilà, et qui vous ont applaudi, en tout cas.
On a eu beaucoup de succès, oui. Beaucoup.
Voilà, beaucoup de succès. Xavier Godineau, simplement une précision, on parle d'alliés, de volontaires, de militants. Dites-nous un petit peu, ces termes ont été vraiment mûrement choisis, de façon à être justement au plus juste de ce que chacun peut apporter dans le mouvement.
Oui, alors, peut-être je vais vous dire quelques mots sur les volontaires, puisqu'il se trouve que j'en suis un.
Mmh. Et après, on demandera à Manuela, qui est elle militante, ce que ça représente.
Voilà. Alors, l'histoire du volontariat d'ATD Quart-Monde, en fait, ça vient d'une question qui était posée par les habitants du camp de Noisy-le-Grand aux premières personnes qui arrivaient là. Les habitants du camp, qui ont vu défiler des centaines de personnes, des centaines de jeunes qui venaient en été, à un moment disaient aux gens, « Toi, tu viens, mais est-ce que tu vas rester ou est-ce que tu vas repartir ?» Donc, il y avait cette demande... ce besoin que des gens s'engagent dans la durée avec les familles pour qu'elles s'en sortent. Et le volontariat d'ATD Quart-Monde construit par Joseph Rezinski, c'était dans cette idée de durée et donc d'un engagement fort qui peut être un engagement de vie pour s'engager dans la lutte contre la misère, pour soutenir les efforts des familles qui subissent cette misère. Et donc... dès le départ, ces volontaires habitaient dans le camp de Noisy-le-Grand. Après ça, ils ont habité des cités d'urgence, etc. Et donc, dès le départ, il y a eu la volonté qu'ils restent très proches des familles qui ont la vie dure. Et donc, qu'il y ait une certaine simplicité de vie. On ne dira jamais qu'on est dans la misère, ni même qu'on est dans la pauvreté, mais on a une vie simple. On a une hiérarchie des salaires à ATD Quart-Monde qui est quasiment plate. C'est-à-dire que le délégué général, il est payé un salaire proche du salaire minimum français, comme le volontaire
comme
qui est arrivé il y a deux ans.
Mmh.
Voilà, et ça, c'est vraiment une spécificité. C'est quand même un engagement fort pour garder une vie simple, ne pas s'enrichir sur le dos des pauvres, hein, parce que vous savez, les personnes nous demandent à un certain moment, mais toi, ça fait combien de temps que tu es là, et tu gagnes beaucoup, tu gagnes pas beaucoup, et donc il faut qu'on soit clair par rapport à tout ça.
Et une vraie transparence.
Voilà. Et donc, voilà, cette simplicité et puis cette volonté de rester engagé dans la durée aux côtés des familles. Ça, ce sont pour les volontaires.
Les alliés.
Les alliés, ce sont ceux qui gardent leur engagement professionnel, qui peuvent être instituteurs, travailleurs sociaux, juges, patrons, tout ce que vous voulez, mais qui essayent d'introduire la préoccupation des plus pauvres dans leur milieu. Ça peut être très difficile. Ça peut être très difficile. Je me rappelle très bien, moi, une alliée que j'avais connu quand on agissait dans les tours de Vénissieux, à côté de Lyon, et qui nous disait, vous savez, moi, quand je parle d'ATD Quart-Monde, quand je parle des plus pauvres dans mon milieu, les gens ont envie de me mettre dehors. Parce que ça bouscule trop. C'est un monde qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne veulent pas voir. Ils ont envie de me mettre dehors. Donc c'est pour vous dire que l'engagement d'allié, c'est aussi un engagement très fort dans son propre milieu pour défendre la cause des plus pauvres et pour en faire aussi quelque chose d'important dans sa vie.
Être véritablement allié, je trouve le terme est très joli, de cette alliance aussi avec les personnes qui sont en précarité ou en pauvreté. Manuela, vous êtes militante.
Oui.
Alors c'est quoi être militant à ATD Quart-Monde ?
Alors le militant d'ATD Quart-Monde, c'est une personne qui a vécu dans la pauvreté, qui vit encore des moments de précarité à l'heure actuelle, des moments difficiles dans sa vie, et qui décide quelque part de rejoindre le mouvement ATD Quart-Monde pour combattre la pauvreté, parce que à plusieurs, tout seul on n'y arrive pas, mais à plusieurs on y arrive beaucoup mieux. Et tous ensemble, on est plus forts et on se forme entre nous, avec l'aide des alliés et des militants, comme l'a dit Xavier il y a deux secondes, on se forme avec eux pour apprendre à combattre la misère et combattre la pauvreté qui nous entoure encore de nos jours et faire comprendre aux gens qu'on existe et qu'on n'est pas transparent. Qu'on
Mais
est
plus
là
que ça, parce que vous avez aussi un savoir.
Oui.
Vous connaissez ce qu'est la pauvreté, donc vous apportez aussi une part des solutions.
Oui, c'est-à-dire qu'entre nous, on parle de tout ça, et jusqu'à présent, on a proposé aux alliés, enfin c'est surtout les alliés et les volontaires qui nous ont proposé de nous apprendre à mieux nous défendre, pour défendre nos droits surtout. Parce que c'est hyper important que les droits des gens dans la précarité soient bien défendus, soient bien entendus. Et souvent, des fois, on a peur de défendre tout seul nos droits. Et donc, que ce soit les alliés, les militants ou les volontaires, on a besoin des uns des autres pour se soutenir dans ce combat. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis une personne fière parce que j'ai, grâce au mouvement ATD Quart-Monde, grâce à tous ces alliés, ces volontaires et tous ces militants qui m'entourent, aujourd'hui, je suis devenue une autre femme. Je suis devenue une femme qui a réussi à combattre. Il y a encore des choses, on a encore besoin de certaines choses pour améliorer. Mais je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je peux dire que j'ai avancé, je me suis améliorée dans ma vie, comme maintenant j'aide mes autres amis militants à s'améliorer, et aussi grâce à l'aide toujours des volontaires et des alliés.
Voilà, et puis ce parvis du Trocadéro, voilà. C'est le vôtre, c'est celui de tous. Xavier Godino, juste un mot.
Oui, juste un mot pour dire que nous aussi, on s'améliore et on se forme aux côtés des militants qui nous apprennent qu'est-ce que c'est que la pauvreté, à la fois toute la souffrance qu'il y a, mais aussi toute la résistance qu'il y a. Hein, et aussi, quand on combat, comme le disait bien Manuela, la fierté. Donc nous aussi, on ne cesse pas d'apprendre aux côtés de ces militants, et aussi aux côtés de ceux qui ne sont pas encore militants parce qu'ils n'en ont pas encore la force. Et on ne cesse pas d'apprendre et de s'améliorer à leur contact. Ça, c'est très important.
Mmh. Mireille Dassé, alors on va revenir à l'action d'Amnesty International, mais simplement, de ce qu'on a pu déjà échanger depuis le début de l'émission, votre première réaction ?
Alors, écoutez, permettez-moi aussi de partir d'un souvenir, comme Xavier Godino l'a fait. Plusieurs fois, plusieurs années, les plus anciennement présents ici se souviendront, nous avons croisé Stéphane Hessel sur cette place. Et Stéphane Hessel, alors pour dire aux plus jeunes qui nous écouteraient, c'est donc un des participants à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
1948.
Voilà, celle de 1948. Et lorsqu'il était là, Je l'ai entendu plusieurs fois, j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'entendre dire que les rédacteurs de la Déclaration universelle avaient été très pointilleux sur le choix des mots et sur l'ordre des mots. Or, article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et l'articulation, elle est là. Pour nous, Amnesty International, comme pour ATD Quart Monde, l'articulation dignité-droit. Parce que restaurer quelqu'un, restaurer un individu dans sa dignité, c'est l'aider à se réapproprier ses droits fondamentaux. Et l'aider, c'est-à-dire avec lui en participation active, c'est-à-dire pas à côté de lui, avec lui, lui expliquer, s'il ne le connaissait pas, où est son droit, ce qu'il est, comment il peut le récupérer, comment il peut le défendre. Et avec ça d'ailleurs, à ce moment-là, lorsqu'il se l'est bien réapproprié, il devient le meilleur garant de ce droit. Donc ça, c'est un souvenir fort que, et j'ai toujours entendu, je me suis toujours rappelé de ces paroles fortes de Stéphane Hessel, qui était un grand monsieur.
Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre l'émission, mais avant, je pense que vous ne me contredirez pas, Xavier Godinot, on ne pouvait pas refuser grand-chose au Père Joseph. Et quand il a demandé à Laurent Voulzy qu'il écrive une chanson, Laurent Voulzy, avec son compagnon de toujours, Alain Souchon, ont écrit cette chanson interprétée par Laurent Voulzy.
Même sourire d'enfant, même air qu'on respire en même temps, même cœur battant, même air qu'on entend en même temps. Oh, 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 oh. Pourtant seul, seul sur terre, certains ils vont sans maison, sans raison, sans amour certain, comme ça le froid sur leurs mains. Oh, 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 oh. Jésus, l'entends-tu? Ces filles et ces garçons perdus ne sont-ils pas assez précieux du haut de tes yeux délicieux? Oh Jésus, roi du ciel, nos âmes volent avec leurs ailes. Toi tu choisis lesquelles, même même désir d'amour, les mêmes je t'aime toujours, même navire pourtant, même vague et même vent. Oh, oh, oh. Pourtant rien, rien à faire certain, à côté du chemin, ils vont sans rien, sans espoir le matin, le soir. Oh, 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 oh. Jésus, l'entends-tu? Ces dames et ces messieurs pieds nus ne sont-ils pas assez gracieux, trop bas pour tes yeux délicats? Oh Jésus, roi du vent, nos âmes volent pareillement. Toi tu choisis comment, même, même vie devant, tant de destins différents.
grand angle en direct du Trocadéro à Paris avec les 60 ans d'ATD Quart-Monde et puis le 30e anniversaire de la journée du refus de la misère. On l'entendait, Laurent Voulzy, qui chantait cette chanson Jésus que lui avait demandé le père Joseph Wrzinski. Ses filles et ses garçons ne sont-ils pas assez précieux, interroge Laurent Voulzy dans sa chanson. Ben, bien sûr, on l'a dit, toute vie est précieuse. Vous l'avez dit, Mireille Dassé, chacun a droit à sa dignité et a des droits aussi. Alors, du coup, cette démarche d'ATD Quart-Monde, engagée dans la lutte contre la misère, Amnesty, je vais mélanger les deux mouvements, Amnesty a rejoint ce combat.
Absolument, nous les avons rejoints depuis 2004. Alors, pour vous donner, parce que effectivement, dans les années 2005-2006, nous avons lancé une campagne internationale que nous avions appelée « Exigeons la dignité ». Ça nous a bien rapprochés puisque nous avons eu quelques actions communes.
Avec ATD,
par exemple, les comités solidaires pour les droits. Voilà, ça c'est une action qui a bien marché. Qu'est-ce que c'était des comités solidaires pour les droits ? C'était, vous connaissez dans votre entourage, dans votre environnement, quelqu'un qui a un déni patent de droit, d'un droit fondamental. Alors bien sûr, à l'époque, c'était le droit au logement. Et nous avons travaillé pas mal avec le DALO, tous ces gens qui postulaient pour le DALO.
Le droit au logement.
Opposable. C'était difficile. Les dossiers étaient difficiles à remplir. Il fallait être patient. Voilà. Aider quelqu'un à soutenir, à remplir son dossier, l'accompagner, être présent. Pas se substituer, être présent à côté de lui. Et lorsqu'il avait bien compris, lui-même pouvait transmettre cette expérience, aider quelqu'un d'autre à remplir le DALO. Donc les comités solidaires pour les droits étaient nés avec cette idée-là. Vous aidez, vous rassemblez quelques-uns autour de vous, des personnes de bonne volonté, des volontaires, et vous marchez ensemble pour la restauration, la réappropriation de ce droit. Voilà. Surtout, j'ai des exemples surtout sur le droit au logement, parce que c'était quelque chose à l'époque qui était patent. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus.
Sur la dalle, qui a même pas 3-4 mètres de nous, c'est bien inscrit. Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. Les mots sont forts.
Tout à fait.
Ça veut bien dire que l'injustice, la pauvreté, c'est une atteinte aux droits de l'homme.
Mais bien sûr, la pauvreté, ce n'est pas qu'un problème de revenus. On ne le réglera pas comme ça. La pauvreté, c'est restaurer, c'est aider à quelqu'un, aider quelqu'un à le sortir de cette situation. C'est vraiment l'approche de la pauvreté comme un déni de droit fondamental. Ça, c'est pour nous, c'est essentiel. Et je crois que ATD Quart-Monde est tout à fait dans cette philosophie d'approche de la pauvreté.
RCF, émission spéciale.
On était en train de parler du droit de tous et chacun à la dignité et au respect de ses droits. Simplement, en cet anniversaire du 30e jour, du 30e anniversaire, pardon, j'en perds un peu les mots, le 30e anniversaire du jour du refus de la misère. On en parle. Alors, Mireille Dassé, vous étiez en train de nous expliquer justement que l'engagement d'Amnesty avait tout son sens dans cette défense des droits fondamentaux de l'homme. De l'homme, de la femme, des enfants.
Des êtres humains.
Voilà. Hein, vous avez... C'est pour ça que je préfère compléter quand même.
Des êtres humains. Et vous savez, il m'est arrivé de participer à des opérations d'éducation aux droits humains. Et lorsqu'on demande à des plus jeunes de citer l'article 1er de la Déclaration universelle, ils citent toujours celle de 1789. Hein, tous les hommes naissent. Alors moi, je leur dis que quand on oublie de mettre un H majuscule à homme, ça va mal. Et qu'il vaudrait mieux, ce que les rédacteurs ont fait, mettre tous les êtres humains naissent libres et égaux,
et bien voilà.
En droit, en dignité et en droit. Mmh. Et puis comme c'est un très beau texte, on peut terminer. Ils sont doués de raison et se doivent d'agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Si on ne respectait que celui-là, ce serait magnifique.
Mmh. Xavier Godino, c'est presque votre charte, ça. Les droits de l'homme, les droits des êtres humains tels qu'ils sont exprimés là, c'est quelque chose que vous mettez en œuvre.
Oui, tout à fait. Nous, on a eu pendant très longtemps un texte qu'on appelait les options fondamentales d'ATD Quart-Monde, qui commençait par tous les hommes sont libres, égaux en dignité et en droit, et tout homme possède en lui une valeur fondamentale inaliénable qui fait sa dignité d'homme. C'était comme ça que ça commençait. Et ce qui était très important et qui demeure très important dans ce texte qu'on avait des options de base, la TD Quart Monde, c'était que la progression des plus pauvres sera la mesure de notre propre progression. Quand on réfléchit bien à ça, c'est très très fort en fait. Ça veut dire que je ne progresse que si les plus pauvres à côté de moi progressent aussi.
Alors, je ne veux pas jouer l'avocat du diable, mais en même temps, il faut bien être très très précis. Vous avez notamment travaillé sur justement cette définition de la pauvreté, quels étaient les critères qu'on pouvait développer. Les personnes disposant de moins de 1 000 euros par mois représentent 9 millions des Français. Et on a bien noté aussi qu'il y avait une augmentation, c'est-à-dire que ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 846 euros par mois, eh bien, sont de plus en plus nombreux.
Oui, alors c'est effectivement...
Il y a une contradiction, puisqu'en 87, tout le monde est d'accord pour s'engager sur le refus de la misère, et en même temps, la pauvreté, on n'arrive pas à l'éradiquer.
Alors, vous avez cité des chiffres là, qui concernent la France, hein, il faut le préciser.
Oui.
Donc, c'est évidemment, cette évolution est extrêmement préoccupante, hein, qui, elle va de pair avec un accroissement considérable des inégalités. En même temps, nous citons ces chiffres aussi, hein, vous les trouverez dans tous les dossiers d'ATD Quart Monde, mais nous ne cessons de rappeler que la pauvreté et la misère sont autre chose qu'une question d'argent. C'est bien au-delà de ça, nous disons que l'extrême pauvreté est une violence. C'est une violence qui se traduit dans toutes les dimensions de la vie. Lorsque, par exemple, je vais vous raconter ce qui s'est passé... Hier, à New York, avec une délégation d'ATD Quart Monde qui est allée rencontrer l'ambassadeur de France de Lattre, qui pendant un mois est le président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et notre délégation est allée le rencontrer en voulant lui faire comprendre le Conseil de sécurité, évidemment, il est en charge de la paix. C'est lui qui est chargé de maintenir la paix dans le monde. Mais la paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflit. Et notre délégation est allée le rencontrer en voulant lui faire comprendre comment les personnes qui vivent la misère sont aussi des acteurs de paix. Et il y avait là un militant d'ATD Quart Monde que je connais, un Anglais qui s'appelle Seamus Neville, et qui a témoigné qu'à cause de la misère qu'il vivait dans son pays, on lui a retiré ses enfants. Et il a dit que c'était une violence insupportable, absolument insupportable. Et beaucoup d'autres violences ont été dénoncées, hein. La violence de tant d'enfants qui quittent l'école sans avoir aucun diplôme, hein, et qui sont condamnés au chômage. La violence de tous ces gens qui sont sans logement, avec une espérance de vie en France. Quand vous êtes sans logement pendant longtemps, l'espérance de vie tombe à 49 ans, c'est-à-dire 24 ans au-dessus de l'espérance moyenne. Donc une violence qui couvre tous les domaines de la vie. Et donc Seamus Neville a témoigné de ça. L'ambassadeur était très impressionné. Et à un moment, lui a demandé, mais donc vous nous dites que vos enfants ont été placés par des services sociaux, par des travailleurs sociaux, est-ce que vous leur avez pardonné? Et Seamus Neville a répondu oui, j'ai pardonné parce que si on ne pardonne pas, on n'avance pas. Et l'ambassadeur est resté scotché et a dit à la fin de cette rencontre qu'il avait beaucoup appris sur ce que c'est que promouvoir la paix, ça n'est pas simplement empêcher les conflits, mais c'est empêcher la violence.
Mmh. Oui. Cette violence, Manuela... Manuela Le Canu, vous avez connu ce passage où les enfants ont été pris en charge par d'autres. Et c'est dur, et en même temps, il faut aussi que cette solidarité puisse exister.
Oui, moi j'ai failli, à une période donnée de ma vie, avoir mes enfants placés. Et comme je n'avais pas envie qu'on place mes enfants et que je voulais m'en sortir avec eux, les enfants ont voulu faire un effort avec nous, avec leur papa et moi. Ils nous ont dit non, on n'a pas envie d'être placés et tout. Donc moi, je suis allée voir une assistante sociale. Je suis tombée sur une très bonne équipe à l'époque qui m'ont beaucoup aidée. Et on a eu un éducateur qui nous a beaucoup aidés, qui nous a beaucoup écoutés, qui nous a appris à redialoguer entre nous, à reprendre une belle vie de famille. Et au jour d'aujourd'hui, je connais encore à l'heure. Et du coup, cet éducateur, on le dressait qu'un an, est resté 8 ans avec nous parce qu'il a vu qu'au fur et à mesure, jour après jour, mois après mois, on avançait, on progressait dans notre vie de famille de nouveau, dans le côté positif. Bah, il s'est dit, moi, j'ai pas envie d'abandonner cette famille, je vais tout faire pour rester encore quelques années dans cette famille. Il nous a suivis pendant 8 ans.
Et ça vous a permis de vous en sortir, enfin, tout le monde en famille.
Voilà.
De retrouver pied. Mireille Dassé, finalement, le droit de chacun, c'est l'affaire de tous.
C'est l'affaire de tous, absolument. C'est l'affaire de tous. Et puis, je voudrais ajouter, M. Godinot, peut-être en parlera, personnellement, mais en tant que militante des droits humains, j'ai été très impressionnée par le combat qu'a Tédé Carmonde a mené pour faire reconnaître comme facteur de discrimination la précarité sociale. Ça, ça a été remarquable et c'est très important. Le doigt de l'autre mis, encore une fois, sur la pauvreté, le pauvre. Voilà, la discrimination. Ça, ça a été une réussite à laquelle j'aurais aimé que mon organisation se participe beaucoup plus. Voilà.
Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On sait, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait cette année que la lutte contre la pauvreté avance, notamment la pauvreté pour les jeunes et les enfants.
Oui. Bon, là, on va.
On n'a pas encore le détail.
On va pas. Oui.
On va pas se lancer dans un débat politique. Mais ce choix de priorité pour les enfants et les jeunes.
Oui, peut-être. Tout ce qu'il voudra. Comme simplement, moi, j'ai entendu une petite phrase qui m'a un petit peu surprise sur les premiers de cordée. Et j'aimerais bien qu'il pense comme premier de cordée, comme il dit. À plus de mixité sociale dans ces premiers de cordée.
Hein.
Voilà. Oui. Et puis, une année, il m'est arrivé de participer à ce que vous appelez les universités populaires. Extraordinaire, les universités populaires.
Très belle rencontre.
Très belle rencontre. Elle se tenait dans un endroit prestigieux qui est le comité économique et social, là, à côté d'ici. On s'entend plus très bien.
Oui, c'est vrai, alors, c'est difficile pour voilà. intervenir parce qu'il y a la Cora
écoutez,
qui est en train de répéter.
Au frontispice de ce Conseil économique et social, il est écrit « Considérer les progrès de la société à l'aune de la qualité de vie du plus démuni et du plus exclu et la dignité d'une nation fondée sur les droits de l'homme. » Voilà. Nous avons ça au frontispice de nos organisations, de nos beaux monuments, alors que ça, cela soit...
Voilà, le Conseil économique voilà. et social, hein, qui avait demandé un rapport à Joseph Wrezinski sur la pauvreté,
voilà.
qui a été un rapport très, très voilà. important, justement, voilà. dans cette lutte. Voilà. Xavier Godinot, d'accord, vous êtes d'accord avec cette idée, il faut inverser la cordée, peut-être.
Nous disons, nous avons beaucoup... Joseph Wrezinski, le fondateur d'Atelier Carmont, nous a fait beaucoup réfléchir sur cette idée que les pauvres sont nos maîtres. Les premiers de cordée, c'est les pauvres, en fait, pour nous. Hein. C'est-à-dire que c'est eux qui nous indiquent la direction. Non pas qu'ils vont nous dire les politiques qu'il faut mener comme ça, hein, c'est plus compliqué que ça, mais ils vont nous dire les injustices qu'ils subissent, la souffrance qu'ils ont, les maltraitances sociales, les maltraitances institutionnelles dont ils sont victimes. Parce qu'il y a des maltraitances institutionnelles hein, qu'il faut combattre. Ils vont nous le dire, ça. Ils vont nous dire leur souffrance. Ils vont nous dire aussi les changements qu'il faut. Et à partir de là, à nous de travailler avec eux, à bâtir des politiques qui s'appuient là-dessus, qui s'appuient sur ces réalités et qui les font reculer. Donc, pour nous, c'est clair, les premiers de cordée, ce sont les plus pauvres.
Ouais, c'est cette expérience fondamentale de la pauvreté. Vous l'avez dit, Xavier Godinot, tout à l'heure, le père Joseph avait pris comme engagement que les pauvres, un jour, montraient les marches de l'Élysée et de l'ONU. À l'ONU, Joseph Wrezinski l'a promis. C'est vous, Manuela, qui l'avez réalisé. Vous êtes allé à l'ONU, c'était en 2013. Racontez-nous
oui.
un peu cette aventure.
Bah, c'est-à-dire que nous sommes allés, on a été trois représentants du mouvement Atelier Carmonde à l'ONU.
Pour la France,
oui. Pour le mouvement France, parce qu'on avait fait une université populaire sur la discrimination sociale pour cause de pauvreté. Et donc, on est allé là-bas pour les objectifs, je ne sais plus comment on dit, mais bon, voilà.
Le développement durable.
Voilà, merci. Merci, Xavier. Et donc, on est allé là-bas pour représenter le mouvement France. Et on est allé à l'ONU et on est allé rencontrer le président Ban Ki-moon à cette époque-là. Et on était fiers d'y aller, quoi. On était fiers de représenter le mouvement et de faire comprendre que, on en avait marre de la discrimination, quoi. Qu'on était pareil que tout le monde, quoi. Et qu'on voulait vivre comme tout le monde. Et être à égalité, quoi, si je puis m'exprimer ainsi, quoi. Parce que c'est pas normal qu'on vit comme ça, quoi.
Xavier Godinot, vous étiez aussi
cette délégation. J'étais de la délégation, on était 50 en fait, venant de beaucoup de pays. Mmh. Et on a gagné quelque chose de très important à ce moment-là. Ça a été en partie ce jour-là et en partie les années suivantes. Si vous regardez de près cette déclaration qui a été adoptée par 193 chefs d'État en 2015, ce qui s'appelle la déclaration des objectifs de développement durable, eh bien, il est inscrit à 4 reprises qu'il ne faut laisser personne de côté. Et quand nous sommes allés avec Mme Le Canut et beaucoup d'autres à l'ONU en 2013, en juin 2013, nous avions un document qui s'intitulait « Vers un développement durable qui ne laisse personne de côté ». Le défi de l'après 2015. Et nous avons gagné que ce soit inscrit dans ce texte. Et c'est très important pour nous parce que c'était en rupture avec la logique de la des objectifs du millénaire pour le développement qui disait qu'il fallait faire passer au-dessus de la pauvreté la moitié des pauvres, au-dessus voilà, de la ligne ça. De pauvreté.
Oui, il fallait mettre du bon côté. Hein.
Voilà. Et donc,
on va penser à un pourcentage.
Voilà. Et donc on laissait dans l'abandon l'autre moitié. Et pour nous, c'était absolument insupportable.
C'est inadmissible.
Et donc faire passer dans cette déclaration qu'il ne faut laisser personne de côté, on change de logique. Alors évidemment, ces déclarations sont toujours des compromis, hein, donc vous avez toujours des choses qui ne conviennent pas vraiment, mais que ce soit inscrit, ça nous donne de la force. Pourquoi ça nous donne de la force ? Eh bien parce que maintenant, on peut aller rencontrer le président Macron, mais aussi les présidents de tous les pays qui ont signé en disant « Votre pays s'est engagé à ne laisser personne de côté. Qu'est-ce que vous allez faire pour le mettre en œuvre ?» Et ça nous donne de la force, ça, qu'il soit engagé par cette signature.
C'est-à-dire qu'il faudrait encore sceller une pareille pierre comme celle qui est au Trocadéro. Vous l'avez dit, elle est déjà un peu partout dans le monde. Il faut ajouter quelque chose peut-être à cette déclaration où tout est dedans, déjà, dans ce refus de la misère.
Je crois qu'il y a, le devoir sacré de tous s'unir demeure. Après ça, il faut sans arrêt améliorer la connaissance. Je pense à la définition qu'il y avait dans le rapport Wresinski adopté par le Conseil économique et social, la définition de la pauvreté et de la misère. On travaille là-dessus maintenant, parce que quand on regarde justement ces objectifs de développement durable, le premier objectif de développement durable affirme qu'il faut éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, dans toutes ses dimensions, partout dans le monde. Donc on est très content que ça soit écrit. Mais quand on regarde le premier indicateur qui est donné, c'est l'indicateur de 1,90$ par jour. Il y a déjà une énorme contradiction entre l'objectif et l'indicateur. L'objectif, c'est toutes les dimensions et on ne prend que la dimension monétaire.
Mireille Dassé, vous voulez réagir ?
Oui,
rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission.
Oui, non, ce serait un petit peu long à expliquer, mais c'est vrai que quand on procède par pourcentage, c'est facile de ramasser sur un pivot central une certaine proportion de gens. Et c'est comme ça qu'on crée l'extrême pauvreté. Parce que ceux qui sont laissés pour compte, alors ceux-là d'exclus, ils passent à hyper-exclus. De pauvres, ils passent à extrêmement pauvres. Et on crée de l'extrême pauvreté comme ça, en travaillant par pourcentage et en se satisfaisant de la réussite de tant pour cent. C'est l'échec des objectifs du millénaire pour le développement. Ça a été leur grand échec.
Voilà, qui n'était pas une approche en termes de droits de l'homme.
Voilà.
Voilà, en 30 secondes, Xavier Godinot, si on veut participer à l'aventure d'ATD, parce que ça reste une aventure humaine, Manuela nous l'a dit, c'est quelque chose que vous vivez, enfin qui fait vivre aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut aller sur le site, on cherche
bien sûr.
Beaucoup de villes de France, il y a des antennes.
Chacun peut être actif dans la lutte contre la misère. J'ai envie de dire ce que nous répètent sans cesse avec des mots différents les personnes qui vivent la misère, c'est un regard bienveillant porté sur nous, c'est comme une source d'énergie qui nous est donnée. Un regard malveillant, ça nous tue. Donc regard qu'on porte sur les gens, toute l'aide qu'on peut leur apporter, avec nos mains, nous pouvons changer le monde. Moi, je vivais ça quand j'avais 20 ans, je le vis toujours. On peut changer le monde si on se met ensemble, si on s'unit.
On peut changer le monde si on s'unit. Alors, c'est une, cette journée spéciale avec ATD sur RCF qui s'achève avec la fin de cette émission. Merci à Philippe Faure qui était à la régie, à Hélène Pisano d'ATD qui a aidé à la préparation, à Anne Kerléo qui est responsable des opérations spéciales sur RCF. On se retrouve pour un nouveau Grand Angle la semaine prochaine.